Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Je suis au studio et j'ai la chance de vivre un moment exceptionnel en ayant en main un fac-similé, un des 10 fac-similés de l'album du procès de Nuremberg offert par le procureur américain Robert H. Jackson à Henri Donnedieu de Vabre, juge nîmois au procès de Nuremberg, fac-similé qui appartient à Camille Pinchina. Bonjour Camille.
Bonjour Sylviane.
Et merci beaucoup de m'avoir apporté cet objet qui est un objet familial, hein, mm-hmm. un objet de mémoire, dont l'original est à la maison d'Izieux. C'est ouais, ça.
Exactement.
Alors vous, la famille hein, Donnedieu de Vabre l'a offerte, a fait un don à la maison d'Izieux en 2019.
Exactement. Nous nous sommes déplacés.
Une trentaine de personnes
de quatre générations ouais. pour faire ce don. De plusieurs documents, entre autres ce magnifique album, mais aussi toutes les notes de mon grand-père. Pendant 10 mois, il a pris des notes qui sont un peu difficiles à lire, mais nous avons donné.
Alors le procès de Nuremberg s'est tenu du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Votre grand-père, donc Henri, était professeur de droit, mais là il a été nommé juge lors du procès de Nuremberg avec un suppléant qui était Falco. Et il a pris donc des notes, et pour le remercier, il a eu cet ouvrage. Alors vous, enfant, vous n'avez pas connu votre grand-père, mais vous, enfant, il y avait ce document chez vous.
Oui, c'est ça. On trouvait ce document d'abord dans notre maison Cévenol, la maison de ma grand-mère. Et au moment de la succession de ma grand-mère, il y a eu des rangements. Et finalement, c'est mon père qui l'a emporté à Paris. Mmh. Et cet album était présent chez nous. Et on pouvait le feuilleter. Ceux qui étaient intéressés par l'histoire, le feuilleter. C'était un très gros album. Hein, facsimilé est beaucoup plus mince. Alors, je peux raconter une petite anecdote simplement parce que quand on l'a déposé à la maison d'Izieux, nous étions 30, tout le monde ne l'avait pas feuilleté depuis un certain temps. Et donc, mes cousins ont voulu le feuilleter. Et donc, je leur ai dit, regardez, telle page. Et à ce moment-là, Stéphanie Boissard, responsable de ce don, nous a dit, ah non, vous n'y touchez plus, vous y toucherez maintenant avec des gants blancs.
Ah, bien oui, comme dans les archives.
Voilà.
Hein,
donc,
qu'il est fragile.
Il est fragile, il a été très bien restauré, mais maintenant, on peut maintenant y accéder. Il nous a dit que quand nous viendrons à la maison d'Izieux, nous pourrions tout à fait le voir, mais nous ne le toucherons plus qu'avec des gants blancs.
Donc c'est un document historique et c'est important et c'est assez extraordinaire. Vous savez pourquoi votre grand-père, Henri, a été désigné comme juge ?
Ben, il était tout à fait spécialiste du droit pénal international. Il parlait complètement allemand. Il avait participé d'ailleurs à des colloques. On a pu un peu mettre en cause sa fréquentation de certains professeurs allemands en 1935, paraît-il, on le voit dans le livre. Mais c'était au titre de professeur. Et en 1928, il avait écrit un livre, « Les principes modernes du droit pénal international », en 1928.
Oui.
Donc c'était un grand spécialiste.
Oui, parce que lors de ce procès de Nuremberg, il ne faut pas oublier qu'il y avait quatre chefs d'accusation,
oui.
et que le crime contre l'humanité, c'était nouveau.
Très récent, voilà. Moi, je ne suis pas juriste, hein, mais c'était une notion très récente et qui a été étudiée à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu d'autres colloques après.
Bien sûr. Donc, il faut rappeler que votre grand-père Henri donc, était né à Nîmes, hein, donc c'est un héritage nîmois. Et votre père se souvient bien sûr de son père. Et quel souvenir avait votre père, qui est décédé en 2009, de son père, justement, et de Nuremberg ?
De Nuremberg. Alors, lui, il n'y a pas été, puisqu'il était au début dans le cabinet de Gaulle, à Paris, de 44 à 46. Et ensuite, il a été nommé en Tunisie, conseiller juridique du gouvernement tunisien. Mais il recevait des lettres de ma grand-mère. Et quand il nous parlait de son père, ensuite, il nous disait que c'était un homme, en tout cas, quand il venait en vacances, qui travaillait énormément, qui travaillait. Et d'ailleurs, j'ai des photos de lui dans les Cévennes, il avait toujours sa cravate.
Ah oui, très. Et puis, des livres et des livres.
Des livres et des livres, quoi. Voilà, il arrivait avec des caisses, des grands paniers, des panières de livres, on racontait.
Voilà, donc famille. Une famille qui avait le goût des livres et du travail. Et donc, vous avez cité Stéphanie Boissard, c'est elle qui vous a contacté, donc, pour écrire ce livre aux éditions Taillandier, mais Mairie d'Izieux, qui reprend les photos, oui, en fait, du fac-similé.
Voilà, Stéphanie Boissard est historienne et documentaliste en plus à la maison d'Izieux. Donc le jour de ce don, elle était là et c'est elle qui a participé ensuite à la rédaction de ce livre, Nuremberg, l'album du procès, qu'elle a fait avec Brigitte Sion et un jeune historien allemand, Matthias Gemmelich, qui est le spécialiste, paraît-il, des Français à Nuremberg, à ce procès.
Oui, il a dû travailler un sujet de thèse.
Exactement, c'était sa thèse, les Français à Nuremberg.
Et alors, vous m'avez dit, puisque Stéphanie Boissard est venue lors du festival de la biographie à l'Espace 14 faire une conférence, et ça vous a permis de dire avec quoi vous n'étiez pas d'accord.
dans le livre, oui. Parce que, bon, il y a certaines petites choses, mais c'était là, qui sont un peu difficiles, mais c'est parce que mon grand-père était professeur de droit et qu'il avait un goût du droit et du détail, qui n'était pas forcément le goût d'autres juristes, en tout cas, par rapport aux Russes. Mais il y a quelque chose qui m'a troublée, c'est quand ce jeune Gemmelich dit qu'au moment des acquittements, que mon grand-père était à l'origine de l'acquittement qui concerne trois personnes, Von Papen, Schacht et un autre. Et que ce sont les Français qui étaient à l'origine de cet acquittement. Or, quand on lit le livre d'Annette Wieworka, on voit que ce n'est pas tout à fait vrai. C'est ce que j'ai dit à Stéphanie, qui en a convenu, parce que ce sont les anglo-saxons qui étaient plus pour un acquittement. Mon grand-père était, par exemple, pour Schacht, pour 15 ans de prison, les Américains pour un peu plus. Bref, ça n'était pas tout à fait que lui, et pas lui du tout au début. Et ils ont mis ça de côté parce que c'était très compliqué, ces discussions entre eux. Quand ils sont revenus sur le sujet, mon grand-père et Falco se sont ralliés aux Anglais, donc à ce moment-là, pour l'acquittement. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup troublée dans le livre, c'est quand Gemmelich dit « il est quand même tragique ». C'est ce mot tragique que les Français soient à l'origine de ces trois acquittements.
Oui,
trois. Et le mot tragique, Stéphanie Boissard en a convenu, ça n'est pas le même registre.
Oui.
C'est pas le même registre qu'un historien, c'est l'émotion. Le mot, alors, elle m'a dit qu'elle convenait, elle était tout à fait d'accord, et que c'est probablement un problème de traduction. Parce que c'était en allemand, et que ça n'était peut-être pas le même mot, en tout cas
peut-être.
Le même. Voilà.
Oui, mais c'est vrai que là, il y a une notion de jugement,
oui,
alors que regrettable, par exemple, ça ne pourrait pas le même sens.
Oui.
Alors, dans ce livre, je signale la table des matières, il y a la préparation, alors il y a une préface d'Olivier Wieworka.
Le fils d'Annette Wieworka.
La préparation du procès, parce que ça ne s'improvise pas juste après la fin de la guerre. Et là aussi, la mise en place du procès a été très, très compliquée. Il y avait 8 juges, 2 par pays, deux par pays vainqueur.
Exactement.
C'est cela. La transformation de la salle d'audience, il y a toutes les photos. Après, les accusés, il y a 22 accusés. Le procès, les coulisses du procès et les annexes. Et vous aviez dit les condamnations à mort, je peux peut-être les redire. Martin Bormann, par contumace, Hans Frank, William Frick, Hermann Göring, qui se suicide juste avant l'exécution de la sentence, Afrel Jolden, Ernst Kaltenbrunner, William Kettel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Haukel, Arthur Sechsinquart et Julius Streicher. Donc on imagine un peu le travail que ça a représenté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au moment où les Alliés sont encore des Alliés. La guerre froide n'est pas peut-être est déjà prévisible, mais on n'est pas là-dedans. Donc, à part cette petite critique sur ce mot tragique, comment vous avez lu ce livre ?
Ce livre, non, il est très intéressant, il est très bien composé. Les petites notices sur les photos sont très bien faites. Alors ça, c'est plutôt Stéphanie Boissard et Brigitte Sion. C'est un livre de grande qualité. Non, ça...
et qui peut intéresser que... Est-ce que ça nous donne un regard aussi sur la guerre ? Parce que c'est le procès, mais en 45-46, la guerre est finie. Est-ce qu'en le lisant, on se rend compte de...
Non, je trouve que c'est surtout la position, en tout cas, des Français, puisque ce jeune historien était spécialiste ouais. là-dessus. Je ne trouve pas qu'on remonte beaucoup vers la guerre.
Et donc, c'est vraiment une réflexion sur le droit, en fait, sur les difficultés juridiques.
Exactement, des différents droits, hein, puisque les Anglo-Saxons n'ont pas tout à fait le même droit. Les Russes, c'était aussi différent. Il y a quelque chose qui résume assez bien, que je cite de mémoire, et qui était dans le livre d'Alfred de Montesquieu, qui s'appelle Le Crépuscule des Hommes, qui a été dans la liste d'ailleurs du Goncourt pendant un certain temps, mais qui n'a pas eu le Goncourt, et qui était, lui, centré sur les journalistes à Nuremberg. Oui. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Et il cite une petite plaisanterie qui peut alléger un petit peu, une plaisanterie qui avait cours dans la salle à manger des juges, disait-il, au deuxième étage, et qui disait qu'entre eux, autour d'eux, on disait que les Américains se posaient la question de savoir si Jackson, procureur, serait candidat à la présidence des États-Unis. Deuxième chose, est-ce que pour les Russes, c'était quand est-ce que tous les accusés seront pendus ? Pour les Français, c'était quel est le fondement juridique du procès ? Et là, on retrouve mon grand-père. Là, dans cette phrase-là, ça m'a beaucoup intéressée. Et pour les Anglais, c'est une plaisanterie. Est-ce que nous serons rentrés chez nous pour Noël ? Donc, c'était une plaisanterie qui avait lieu en
1945. Voilà. D'ailleurs, vous faisiez remarquer dans votre album que votre grand-père s'était habillé en juge, sa robe de juge.
Falco et mon grand-père avaient leur tenue de juge.
Ce n'était pas qu'anecdotique, c'était un peu symbolique.
Symbolique, oui. Les Russes étaient en tenue militaire. Et les quatre autres, anglais et américains, étaient en tenue civile.
Ouais. Non, mais je trouve que c'est assez révélateur.
Voilà, le fondement juridique était très important pour mon grand-père. Et c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de discussions au moment de leur délibérer. Ouais. Et que les Russes s'énervaient un peu. Et on le voit dans le livre, en disant ça suffit. Les discussions de...
Oui, parce qu'il y a eu des peines de prison allant jusqu'à la perpétuité. Oui. Et il y a eu donc trois acquittements. Et c'est vrai que ça a été... On a beaucoup parlé de ce procès de Nuremberg, bien évidemment, et feuilleter le livre. Et puis, pour moi, la possibilité de regarder ce fac-similé, c'est assez extraordinaire. Alors, vous parliez d'anecdotes pour alléger un petit peu le sujet, parce que c'est vrai que c'est un sujet difficile. Chez vous, on écoute beaucoup de musique classique et vous vous souvenez du piano dans la maison des Cévennes.
Oui, c'est ça, ma grand-mère jouait du piano.
Donc Schubert, La Fantaisie, opus 103, D940.
Thank you.
Alors, sur Radio Alliance Plus, je reprends avec Camille Pinchina. Merci beaucoup de prendre le temps de venir là. Je suppose que lors de la conférence à l'espace 14, vous étiez, comment dire, totalement immergée dans votre histoire familiale. Hein. C'est, oui. Même oui, si vous n'avez pas connu votre grand-père, je pense que par les photos, par
c'était émouvant à présenter.
Et puis, vous m'avez dit, alors on avait parlé de la mission de Dizieux quand vous avez fait le don, la famille, 30 de nos dieux de Vabre ou Pinchina ou autre nom. Henri avait deux filles et deux fils, et en 2019, et elle est toujours vivante, une de ses filles, Francine, a signé donc le don. Ça devait être très, très émouvant, vous vous en souvenez, il n'y a pas si longtemps
bien sûr,
de cela.
Oui, ma tante était là, avec, et c'est ma tante Francine Dumalérolle et mon frère qui ont signé avec Thierry Philippe, qui est toujours président de la maison Dizieux.
Ouais.
Thierry Philippe, qui est aussi à Paris, c'est un professeur de médecine, il était président de l'Institut Curie à l'époque.
Donc
c'est comme ça que le lien d'ailleurs s'est fait avec mon frère qui est très impliqué dans l'Institut Curie à Paris.
D'accord. Donc une belle histoire de famille qui se perpétue. Et je crois qu'il est important de parler de cette maison Dizieux si les personnes ne la connaissent pas encore. On connaît, on connaît l'histoire des enfants Dizieux.
Oui.
Mais je pense que vous parlez de la maison des Cévennes, il y a aussi le Chambon-sur-Lignon. Mais là, vous avez fait le don à la maison d'Izieux. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes à Izieux? Alors, peut-être raconter un peu le sort tragique de ce... Là, on peut dire tragique.
De ces enfants qui ont été emmenés...
C'est un des derniers actes de Barbie, d'ailleurs.
Oui, exactement. Ouais. Oui, oui. Ils ont emmené tous ces enfants qui étaient heureux dans cette maison et on voit ce lieu magnifique, magnifique. On se dit que ces enfants y étaient paisibles et par Barbie, ils ont été emmenés et en chantant, paraît-il. Et le jour où nous y sommes allés en 2019, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. C'était les 75 ans de la rafle Dizieux. Et il y avait une chorale d'ailleurs de jeunes Lyonnais qui chantaient. Ils n'auront pas l'Alsace et la Lorraine. Et paraît-il, chant qu'ils ont chanté, les enfants, dans le camion qui les emmenait. Enfin, c'est un lieu très émouvant où on voit la maison ancienne avec la salle de classe. Et dans la salle de classe, ils ont mis les lettres sur les petits bureaux sous du verre, les lettres que les enfants envoyaient à leurs parents, les lettres, je ne sais pas, qu'ils ont récupérées.
Oui, elles n'ont pas pu être envoyées, ils ne savaient pas où étaient leurs parents.
Oui, c'est ça. Il y a eu des lettres, en tout cas, qui ont été retrouvées et qui ont été conservées, probablement par une des institutrices qui, au moment de la rafle, n'était pas là.
Oui, il y a eu une survivante.
Voilà, il y a eu une survivante et je pense que c'est par elle que ces lettres ensuite ont été conservées, sont présentées sur les petits bureaux et avec les dessins d'enfants. Enfin, c'est un lieu de mémoire tout à fait extraordinaire, dans un paysage d'une beauté
absolue. Et puis, on parlait justement de la transmission de la mémoire. Je crois que c'est important, surtout dans le contexte actuel, et même... hors contexte, de rappeler justement l'histoire. Je ne sais pas si ça sert, si quand on voit le contexte actuel, ces millions d'enfants qui sont tués dans le monde lors de guerres, là je ne polémique pas, je fais simplement un parallèle, comment dire, prolonger un petit peu cette mémoire et visiter la maison Dizieux, c'est quelque chose d'important.
Il y a la partie ancienne de la maison et ils ont a été construit toute une partie moderne, musée, un peu enterré pour ne pas détruire le paysage, dans lequel il y a les grands procès. Ils regroupent les grands procès, même récents.
Récents,
Oui. C'est un musée passionnant. Passionnant. Sur la justice internationale.
Alors, justice internationale, on en revient vraiment à votre grand-père. Cet album, 10 facsimilés, qui sont dans votre famille.
Oui, c'est ça. Les 10 nous ont été donnés et mon frère les a répartis dans la famille.
Oui. Voilà. Donc, c'est
un chaque
objet.
Branche en a 2 ou 3, enfin, ça dépend.
Est-ce que vous allez retourner voir l'original tout de même avec des gants blancs?
Certainement, parce que nous n'avions de la génération de nos petits-enfants que mon petit-fils aîné qui a maintenant 18 ans, oui. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits, arrière-petits-enfants de mon grand-père. Il a été le seul représentant, Maxime, mon petit-fils aîné, et nous allons y retourner avec nos autres petits-enfants, mes petits-neveux, etc. Parce que c'est un lieu vraiment de toute beauté et c'est une mémoire extraordinaire.
Mais ça me fait penser, quand je vous écoute, je pense à Simone Veil quand elle est retournée à Auschwitz avec ses enfants, avec ses petits-enfants.
Alors, peut-être qu'il y avait une mémoire encore plus.
Oui, mais je veux dire, le phénomène de la transmission familiale,
je pense que c'est très important.
C'est exactement la même parce qu'on le ressent dans, dans sa chair, je pense.
Et il faut transmettre.
Ouais, et l'émotion, puisque... Vous avez visité, bien sûr, plein d'autres lieux de mémoire.
Oui.
Mais quand ça touche de plus ou moins près sa famille...
C'était très impressionnant. Et j'ai des photos de mon petit-fils aîné, qui maintenant a 18 ans et qui donc avait 10 ans, je crois, assis à ses petits bureaux, regardant tous ses courriers et ses photos d'enfants qui jouaient dans le jardin. Enfin, c'était un lieu très émouvant.
Alors, quand vous étiez enfant, Camille, et que vous feuilletiez ce livre, vous n'imaginiez pas qu'il y aurait un livre dessus
Non, bien sûr que non. Il était... Alors, au début, dans la maison des Cévennes, chez ma grand-mère, et au moment de partage, il est arrivé à Paris, chez mon père. Et plusieurs personnes, historiens, sont venus d'ailleurs parler avec mon père, de ce procès, et puis d'autres choses, sa vie avec De Gaulle et Pompidou, en fait.
Oui, mais parce que la mémoire vivante, elle est importante. Alors, on a les deux là devant nous, quelle différence faites-vous entre ce fac-similé, qui n'est même pas l'original, et puis le livre? Alors, moi, c'est pas que ça me gêne, c'est les obligations de l'édition, c'est que dans le fac-similé, les photos sont entières, alors que là, elles sont coupées.
Elles ne sont pas toutes photos. Il n'y a pas toutes les photos.
Il y en a 115 dans l'original. Ah, c'est ça, je crois. J'avais lu. Si, j'avais lu.
Vous êtes plus précise que moi.
115 des photocopies de Charles W. Alexander. Il était chargé de tout le procès de Nuremberg.
Ben, je pense, parce qu'on a des photos, il me semble, qui dépassent le février ou mars. Stéphanie Boissard me disait que cet album ne concernait que le début du procès. Évidemment, il n'y a pas les condamnations, il n'y a pas des photos qu'on voit dans certains films maintenant.
Donc, il aurait été donné au
milieu du procès, peut-être. C'est ce que Stéphanie, qui est historienne, je peux pas mettre.
Peut-être, à la limite, ça n'a pas d'importance. Puisque le titre du livre, c'est l'album du procès.
Oui, c'est ça, c'est
pas
sur
le
l'album.
Procès. C'est pas le procès, donc on peut trouver, de toute façon, toutes les sentences plus tard.
Oui.
Comme dans tout bon livre d'historien, il y a une bibliographie.
C'est vraiment une édition très sérieuse. Et...
Vous en avez lu beaucoup des livres?
Non, bien sûr que non. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le livre d'Annette Wieworka.
Oui, j'aime beaucoup Annette Wieworka.
Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai fait référence, quand j'ai parlé d'ailleurs des condamnations, au moment de la conférence, au livre d'Annette Wieworka. Oui. Et nous avons aussi à la maison le livre de Didier Lazare, qui est souvent cité dans le livre d'Alfred de Montesquieu.
Oui, je n'ai pas lu ce livre, mais je crois que
Didier Lazare est cité et nous avons son livre. Alors, c'est un livre qui a été écrit très vite après le procès.
C'est peut-être important parce que justement, c'est
Et ça,
c'est
on a l'original qui a été donné à mon grand-père. Donc j'ai l'édition originale.
Je voudrais au moins le voir.
Oui.
Parce que c'est vrai que feuilleter ces livres, les originaux, ça a quelque chose d'extraordinaire.
Oui,
c'est la vie, en fait. C'est vraiment ça.
Oui. Écoutez, Didier Lazare était témoin là-bas. Enfin, il était au procès. Donc, c'est d'autant plus intéressant d'avoir son témoignage.
Oui. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres procès après, donc bien plus tard, puisqu'on sait que beaucoup de criminels nazis ont pu échapper à la justice pendant des années et des années. Moi, je me souviens très bien du procès Eichmann. Ça m'avait vraiment fasciné, cet homme derrière cette cage de verre. Il y a eu d'autres procès.
À Lyon.
Le procès Barbie
à Lyon.
Oui, le procès Papon. Ça m'avait beaucoup... Je l'ai beaucoup travaillé avec mes élèves en lycée parce que c'était vraiment plus proche de nous, de moi. Puis des procès d'autres grands criminels de guerre depuis. Et cet album, ce fac-similé, c'est vraiment un témoin de l'histoire. Merci encore à vous de l'avoir amené. Et je note, me montrer l'original du livre de Montesquieu.
Oui, Montesquieu et Didier Lazare.
Et Didier Lazare.
Qui est l'édition de juste après le procès.
Merci à vous, Camille. Merci beaucoup.
Avec les gens.